Bon, ben oui, l'OMS, je connais bien, je connais depuis l'âge de 28 ans. J'ai fait mon master de sciences avec et j'ai jamais quitté ma collaboration avec eux. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait, c'est comme un autre pays. C'est comme si on rentre dans un club qui est organisé avec leurs mots à eux, leur financement à eux, leur comportement de diplomate à eux. Et donc, bon, moi, ça me plaisait puisque je suis bilingue et que ma mère est norvégienne. Donc, j'ai toujours eu besoin d'être internationale. C'est encore aujourd'hui un must. Il faut être international. On fait partie du monde. On n'est pas des globalistes. Mais voilà. Donc, moi, au début, je pensais que c'était super. C'était vraiment travailler avec l'humanité. C'est vraiment un symbole d'humanité. C'était en principe pour la paix que ça a été construit. Après la première, la Société des Nations, puis après après les Nations Unies, et ensuite après l'OMS. Mais bon, alors depuis 20 ans jusqu'à maintenant, bah, j'ai eu plein de postes différents, payés comme consultante, plusieurs, ou même bénévole, parce que j'avais des positions qui les intéressaient comme expert. Et puis, employé, le truc employé, mais vraiment pendant 3 ans, c'était sur le règlement sanitaire international. Je le répète parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte des fois que quand je dis un truc, le texte est faux, le mot n'est pas ce mot-là, etc., c'est que je sais de quoi je parle parce que ils ont un langage bien particulier. Ceux qui ont commencé à s'intéresser à ce qui s'est en train de passer, donc deux choses fondamentales, c'était l'accord sur les pandémies qui était une dictature totale, et puis après l'amendement des RSI qui est venu après, de changer un livret de gestion de comment on fait des épidémies, comment on fait entre pays, comment est-ce qu'on collabore. Et donc là, jusque-là, ça c'était en 2009, j'étais invitée pour la première réunion par l'Institut Mérieux, qui est aussi OMS à Annecy, qui ont un magnifique centre. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on a enseigné les RSI aussi. Et donc,
2009, on rappelle, hein, c'est la période de la grippe H1N1.
oui. 2009, ouais, c'est ça. Mais sur le RSI a été construit, le petit livret là, ce petit livret là, Règlement sanitaire international 2005, c'était après le SARS-CoV-1 avec la directrice générale, première femme norvégienne, qui était détestée en Norvège, elle était ministre de la Santé, après elle est venue diriger de main de fer l'OMS, et c'est elle qui a enclenché ça, le SARS-CoV-1, et aussi tout le développement durable et tout le concept depuis le sommet de la Terre, le Earth Summit, et tout ce qu'ils ont fait sur le changement climatique, elle faisait partie. Moi, j'ai vu rétrospectivement ça. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait des choses déjà qui allaient pas, mais surtout quand j'ai dû enseigner les RSI, j'ai d'abord. Tu ne rentres pas dans l'OMS comme ça, il faut être sponsorisé par ton gouvernement ou alors des personnes qui veulent travailler avec toi par les académies, comme j'ai fait pour les RSI, ou parce qu'ils t'ont connu, alors après ils veulent que tu viennes parce que tu fais jamais trop de bruit, tu es très diplomate, même si ils veulent que tu effaces un truc, que tu effaces le truc, voilà, dans un rapport par exemple, bon, je dis ok, voilà. Mais avec les RSI, ce qui était spectaculaire quand même, c'était très très bien au début, donc on a fait 3 ans, 3 batchs de pays qui ont fait 1 an en ligne, et puis ensuite on était à l'Institut Mérieux d'Annecy, un château hein, avec des chambres et des salles de cours magnifiques, pour faire comment tu dis, les workshops de 2 à 3 semaines avec tous les groupes de différentes régions. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'à la fin j'ai dit bon bah, il faudrait faire un livre d'enseignement parce que ça peut pas rester comme ça, on a tout un matériel. On peut trouver le financement. Et là, on aurait dû, en fait, nous, être renouvelés. Donc, on était 3 universités. Genève, c'était moi. L'Université de Genève, Faculté de médecine. Georgetown pour les droits. Les droits humains, c'est moi qui l'avais parce que les droits humains aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en Europe. Et donc, moi, je m'occupais des exercices de cas avec le respect des droits humains, le droit du voyageur, le droit de dire non, etc. Bon, tous les droits de la santé. Et puis, la troisième, c'était Pretoria qui s'occupait de la surveillance. Ils sont très connus en santé publique, de la surveillance. Et donc, déjà là, il y a eu un premier refus de. Et je me disais, mais comment. Pas. Alors là, on aurait dû être renouvelé. C'était une équipe qui marchait. Et tout à coup, on nous a envoyé une lettre en disant, donc en 2013-14, en 14, on aurait pu être renouvelé pour 5 ans. Et on a, nous a dit, le Japon s'est retiré et ne nous finance pas, alors que c'est une priorité de l'OMS. Et donc, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi moi, je connaissais Isabelle Nuttall, c'était la médecin qui était française, qui était la mieux placée, elle était toujours à côté du directeur général et tout ça. Elle est restée longtemps à l'OMS, c'était une femme formidable d'ailleurs, c'est une femme formidable. Et donc, elle me disait, je suis désolée, Astrid, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, elle le savait sûrement. Mais voilà, ça, c'était la première chose, c'est que le manuel d'enseignement, et nous, notre équipe s'est éclatée, donc on n'a pas eu le deuxième mandat de renouvellement. Où ils payaient, hein, ils payaient l'université et moi en même temps. Donc voilà. Mais après, moi, je l'ai enseigné, j'ai continué à l'enseigner à l'université de Genève. J'ai fait des cours sur le master de santé publique une semaine entière avec l'OMS et puis l'école d'été. Alors là, c'était 3 semaines sur la santé globale et les droits humains. Ça a eu beaucoup de succès avec des écoles américaines, des étudiants de tous les pays. Mais après, j'ai été convoquée à l'OMS par Plotkin, Bruce Plotkin, qui est un consultant américain qui était spécialisé en législation, donc il donnait des cours dans le cadre de nos cours. Hein, c'est pas moi qui donnais tous les cours, moi j'en donnais quelques-uns, mais j'invitais les experts du domaine, ils donnaient les cours et moi je faisais les workshops et les travaux de groupe et je suivais les étudiants et adultes, les étudiants adultes. Et ben il me convoque et il y avait quelqu'un d'autre, un Italien aussi qui s'occupait des épidémies et de l'alerte aux épidémies. Et puis il y avait une fille que j'avais invitée de Georgia, qui était très bien et qui était le point focal de l'OMS là-bas et qui donnait des cours aussi dans la Summer School. Ouais, on était les quatre à table, à l'OMS, au restaurant. Ils ont un restaurant sympa. Et il me dit, Astrid, t'as pas le droit d'enseigner ça. Et je dis, mais enfin, le droit, les universités enseignent ce qu'elles veulent. Tu peux pas me dire ça. J'éclate de rire, quoi. Le rire, c'est très bien pour détourner un peu les attaques. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Et donc, j'ai compris. En fait, il voulait vraiment, il voulait me dire, tu ne peux pas enseigner ça. C'était en 2015. Et maintenant, je comprends pourquoi. Parce qu'il ne fallait surtout pas que les pays sachent comment appliquer le RSI, le Règlement sanitaire international, comment ils savent se défendre avec les droits, comment dire non à l'OMS. Et ne pas. C'est un État membre, article 2 de la Constitution de l'OMS, c'est l'État membre qui appelle l'OMS s'il a besoin d'une expertise. Mais il n'y a pas un article qui dit que l'OMS peut décider unilatéralement. Par contre, dans les amendements qu'on a justement, là on en parlera, à rejeter, c'est marqué que l'OMS prend unilatéralement des décisions de déclarer des pandémies. Donc on savait avec H1N1 qu'on ne devait pas utiliser le mot pandémie, c'est paradoxal, hein, mais moi j'ai des informations de terrain, d'expérience en travaillant avec l'OMS, et ben, on ne pouvait pas utiliser le mot pandémie parce que un pays peut mettre en poursuite l'OMS pour dire que vous nous avez obligés à acheter du Tamiflu et il y a un pays de l'Est qui l'a fait. Donc moi j'ai été invitée à créer des workshops pour l'OMS Europe au Danemark. C'est ONU City, ça s'appelle. Il y a des agences de l'ONU là-bas. Et donc, on discutait de ça avec des filles de l'OMS qui disaient non, on ne peut pas utiliser le mot pandémie parce que l'OMS va être dans un problème juridique international. Donc, pour moi, c'était classé. On ne peut pas déclarer une pandémie. Avant, il y avait 6 étapes avant de pouvoir essayer de penser qu'il y avait une épidémie qui, après, allait amener tout un maximum de pays qui ont des épidémies déclarées peuvent déclarer une pandémie. Voilà. Donc ça, c'est dans le domaine dont on parle. J'avais vu vraiment qu'il y avait une volonté de arrêter l'enseignement. Et je me suis posé des questions. Je ne savais pas que Gavi était derrière à l'époque parce que je savais qu'il était dans le coin en 2016. Il a voulu être considéré comme un pays parce qu'il finançait tellement l'OMS qu'il s'est imposé avec son financement qui a été une magouille de signer avec la Banque mondiale et l'OMS en 2005. Et il disait qu'il finançait, mais en fait, il s'est autofinancé tout le long. Donc, ça, c'était des choses que je sais aujourd'hui, je peux vous expliquer. Voilà. Mais il y a eu plein d'autres trucs très bizarres. Et bien, celle qui a créé l'accord des pandémies, Ilona Kikbush, elle est partie de l'OMS. Non, elle était, quand moi, je travaillais avec le département du vieillissement comme expert et on a créé un réseau, Ilona Kikbush était au-dessus. Et elle était chef de promotion de la santé et elle s'occupait déjà à l'époque des méga cités. Donc les villes, il fallait rassembler les villes. Vous voyez, Smart Cities, voilà, maintenant je comprends. Mais à l'époque, je me disais, mais pourquoi quelqu'un devrait s'occuper des méga-cités? Oui, parce qu'il y a les slums, il y avait toujours quelque chose. Donc en fait, il y a des gens très très bien à l'OMS, mais il y a des personnes qui étaient déjà en place et qui n'obéissent pas du tout, qui essaient toujours de louvoyer, mais par diplomatie, vous souriront et vous enverront un couteau dans le dos. Ça, c'est sûr, il y a des choses comme ça qui se passent partout, mais à l'OMS plus, parce que c'est une guerre politique aussi. Oui, moi je voulais réagir sur Kennedy, ce qu'il a dit. Alors il faut savoir que les États-Unis ont fait un ordre exécutif. Si vous le lisez vraiment bien, eh ben, vous voyez que de toute façon, ils ont déjà refusé d'ores et déjà depuis janvier 2025 de faire partie de l'OMS et de suspendre toute négociation concernant soit le traité des pandémies et les amendements du RSI qu'ils refusent catégoriquement déjà en janvier. Donc c'était un coup de com. Et ils ont fait très bien cette histoire de com. Hein. D'ailleurs, on retrouve dans le texte qu'on a fait, donc je veux juste dire que nous, avec Virginie, on a, donc bien sûr, j'ai aidé l'Alliance à faire les textes de
Virginie
base.
de la Roche Maritime.
Mais Virginie, ouais, Maître Virginie de La Roche-Réchat, avec qui on avait déjà fait un texte l'année dernière pour contrer le traité, non, le traité ou accord, en fait, c'est l'accord des pandémies maintenant, eh bien, on avait fait un texte d'une dizaine de pages, signé avec Rainer Fulmich, avec Dexter, qui faisait partie du grand jury, et 16 avocats du monde entier et juristes de toute l'Europe, du Mexique, de toute l'Amérique latine, Canada, USA. Et donc ça, tout le monde pouvait l'utiliser et signer, mais en respectant toujours la référence de base. Normalement, c'est comme ça quand on est éthique et qu'on connaît les règles éthiques. Et donc, on a utilisé ce texte en annexe et on a refait un autre texte où, en fait, Kennedy reprend certains paragraphes. En fait, on a tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Et donc, je peux vous dire ce qui va pas. En fait, c'est un texte, les amendements, qui est beaucoup plus souple. Ils ont moins montrer la contrainte, mais en fait, comme il dit, c'est un cheval de Troie. Il y a beaucoup de choses qui, ad finem, vont donner le droit d'une autorité, d'une suprématie de l'information et de la désinformation. Donc, ils pourront décider unilatéralement de déclarer une urgence, mais aussi de donner les raisons. Donc, c'est en fait une dictature de l'information qui apparaît comme quelque chose d'incroyable sur les pays. Et ça, c'est un peu nouveau. Ils ont enlevé des choses, mais ils ont mis d'autres choses. Il y a aussi l'identité numérique. Alors ça, c'est global. Hein. Ils y vont à fond la caisse. Donc ça, c'était oui. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est les leçons du Covid. Et avec Virginie, moi, je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on peut négocier juridiquement un texte quand ils nous ont menti depuis 5 ans en utilisant un texte qui allait très bien, le RSI 2005, c'est une gestion soft, les pays gardent leur souveraineté. Et donc, je dis, mais comment est-ce qu'on peut même voter sur quelque chose, sur un article ou quelques articles, alors qu'il faut rejeter toute l'organisation de l'OMS et tous les procédés et les raisons, dans les argumentations et les décisions, le processus de décision qu'ils ont fait, et, sur tous les points, hein, comment tu
L'impression castrer les
diagnostiques une
coincés.
maladie? Hein? Comment tu diagnostiques une
Alors, attendant
maladie?
qu'Astrid revienne, peut-être que Thierry.
Ah, je suis pas là.
Oui.
Et ça y est, tu es revenu.
Ah, c'est moi je
Ah.
me voyais. Je me voyais, c'est bizarre. Bon, oui. En fait, c'est très important cette leçon de dire. Pourquoi est-ce qu'on pourrait même voter et même devoir rejeter un texte alors qu'ils ont fait tout faux depuis 5 ans? Ils ont fait une fraude scientifique massive, des droits de l'homme et violation des droits de l'homme massives, des droits économiques massifs, conflits d'intérêts massifs. Et est-ce qu'on ne peut pas faire une déclaration qui dit que vu qu'ils ont fait que des fraudes, que depuis 5 ans, rien n'est valable, même pas ce processus-là. Et c'est ce qu'on a fait aussi. On a argumenté aussi sur le rapport de Paul Flynn, que ceux qui connaissent de H1N1, je rappelle, le 7 juin 2010, numéro 12283, ce rapport dit qu'il y a tellement de conflits d'intérêts, mauvaise gestion et gouvernance, qu'il faut revoir toute la manière de faire des gestions d'épidémie slash pandémie. Et donc, ce rapport a été très distribué, mais on n'est jamais revenu sur le fait de refaire et de réviser avant d'aller de l'avant sur un mensonge. On doit revenir à la base. Juridiquement, ça se tient. Donc, voilà, ça, c'est un truc assez nouveau. Ensuite, on a le corps sous surveillance. Il a mentionné, c'est vraiment important. Il a vraiment parlé d'un truc qui est personnel. C'est que tout va être sur surveillance. Et déjà, avec les drones qui se promènent, avec des gens qui ont une RFID dans leur sang quand ils se sont fait vacciner, s'ils ne prennent pas du glutathion, du NAC et du zinc, ça ne désactive pas. Hein. Donc, ils peuvent savoir ce qui se passe avec votre corps. Et je soupçonne que Sébastien a peut-être eu, ouais, comme on en a parlé, un vaccin qu'il a peut-être, pas récent, hein, mais dans son passé, qui a des autres puces RFID dans les gens, qui leur permettent de les guider. Voilà. Et ce que j'ai bien aimé, ce qu'il a dit, c'est que ce n'est pas seulement l'Amérique qui doit dire non, mais c'est le monde entier. Et donc, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'avec le mouvement franco-italien, espagnol et mondial, c'est ce qu'il a dit, c'est le monde entier qui est impliqué d'en dire non à l'OMS. Et c'est ce qu'on est en train de construire, même avec cette émission que j'apprécie vraiment. Et aussi, ce qu'il a dit qui est important, bon, il a parlé de la Chine, c'était un petit peu le truc politique, parce que c'est Fauci qui a déclaré quand même le lockdown aux États-Unis, mais on dit qu'il a reçu un email de la Chine. Moi, j'ai l'email, je crois que c'est le email 1233, j'ai même dans ma tête, où il dit lockdown de America now. Donc, mettez à terre l'Amérique maintenant, comment on dit lockdown en français?
Le confinement, confinement.
Confinement sur tous les niveaux. Et bon, et il dit que en fait, de rejeter le RSI, c'est ne pas, ça veut pas dire qu'il rejette la coopération internationale. Et ça, politiquement, c'est vraiment important. C'est un message fort pour dire qu'on est là, mais là, on peut pas continuer avec l'OMS. Et vous savez peut-être pas, mais le CDC est partout à l'OMS. Moi, quand j'y étais, nous, il y en a même un qui enseignait d'ailleurs à santé publique avec nous et qui me disait, nous, le CDC, on vient en militaire, on venait traiter des épidémies en habit militaire au début. Donc, il faut savoir que l'Amérique est très, très, très impliquée dans tout ce qui s'est passé quand même. L'État profond était vraiment là. Donc, on est bien. Et nous, on a, avec Virginie, donc on a fait un appel vraiment à convoquer des discussions d'urgence, à écrire et soumettre des notifications officielles de réserve et de rejet surtout, mais pas seulement des RSI, de l'OMS, de l'ONU. Et je rappelle que Trump et son équipe ont dit l'ONU, il faut le démanteler. Mais ils n'ont pas dit qu'ils sont contre la coopération. Donc on voit qu'ils ont un plan de coopération internationale, mais différent. Et je pense qu'il faut être là au taquet justement pour être avec eux. Voilà, et donc la coopération internationale, là avec Virginie, on a dit, il ne s'agit pas d'un rejet de la coopération internationale en matière de santé, on se demande s'ils n'ont pas lu notre texte, santé, mais plutôt d'une défense vitale de la souveraineté nationale, du droit à la vie, des procédures légales, du contrôle parlementaire et de la responsabilité démocratique fondamentale. Et voilà, et on rejette toutes les personnes non élues au niveau international et qui ne représentent absolument pas le peuple. Et ça, c'est une chose qu'on n'a jamais en santé publique donné notre compétence à une organisation internationale et même à notre gouvernement qui n'est pas compétent dans des affaires de santé publique et ni clinique d'ailleurs et médicale. Donc voilà, on a fait un beau texte. On va le poster aussi. Il est sur le site de Virginie Honest, Honest. .com, je pense, ou .fr, je ne sais pas. Donc, nous, on l'a envoyé aussi, on l'a envoyé au secrétaire général de l'ONU, à Tedros, le directeur général de l'OMS, à l'ambassadeur de la mission permanente auprès de l'ONU à l'OMS et à l'ONU, qui est à Genève, donc le français, et moi, j'ai envoyé à l'ambassadeur suisse, de la mission permanente suisse. Voilà, on a fait ça et puis on peut l'envoyer partout maintenant. On nous a dit que c'est, enfin, on en a parlé que il faudrait l'envoyer aux médias. Donc merci, vous êtes les premiers à faire une émission qui produit. J'ai participé à des choses un peu américaines et australiennes pour l'instant, mais voilà, je pense que c'est un très bon exercice qui va ramener tout le monde ensemble. Je suis assez enthousiaste.